en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Il est naturel que les médias représentent pour la plupart la pensée du temps. Aujourd'hui, la pensée du temps, c'est une pensée modérée, c'est-à-dire civilisée, éloignée de la violence, adepte de la douceur démocratique. Et puis, c'est aussi une pensée postmoderne, c'est-à-dire individualiste, universaliste et cosmopolite. Et sous ces deux acceptions, les médias se heurtent depuis peu, en fait, à un très puissant courant qui désavoue à la fois le modéré et le postmoderne. Ce courant est extrémiste, ou vu comme tel, bon, évidemment, on peut toujours discuter, à la fois parce qu'il contredit fortement la postmodernité, sous différents aspects, selon les cas, et parce qu'il la contredit avec des armes exaspérées. Mettre en cause la postmodernité est déjà une démonstration d'extrémisme, parce que les caractéristiques de la postmodernité sont considérées comme évidentes et indiscutables. Une voix, par exemple, qui s'élève contre l'émancipation ou contre la liberté individuelle est déjà, par elle-même, extrême, puisque son opinion est impensable. On ne s'étonne donc pas que cette voix utilise souvent, pour se dire, des armes exaspérées. Elle ne comprend pas pourquoi on la fait taire au pays de la liberté de parole. Donc, elle s'exaspère. Je ne dis pas ça, évidemment, pour l'excuser, mais pour expliquer les choses. Les courants extrêmes et les médias modérés s'exacerbent l'un l'autre. Les médias font tout pour éviter l'installation des extrêmes. Le seul moyen dont ils disposent est la maîtrise de la parole. Ça, ils l'ont. Et ils taisent l'ampleur des extrêmes. Ils minimisent leur portée. Ils ridiculisent leurs opinions. Ça, on pourrait donner maint exemple. Et surtout, ils les traitent par l'indifférence, ce qui est évidemment une arme terrible. Aussi, l'un des moyens pour les extrêmes de figurer sur le devant de la scène est l'usage du scandale. Les extrémistes minoritaires sont dans la nécessité de faire ou de dire des choses scandaleuses, au sens étymologique de la pierre qui fait trébucher, c'est-à-dire de faire trébucher les esprits. On sait évidemment comment le patriarche Le Pen a su manipuler le scandale et même s'en faire un drapeau. Ça marchait bien sûr très bien. Alors on remarquera que les courants extrêmes ne se sont jamais reconnus dans les médias de leur époque, qui sont toujours trop tièdes pour eux. C'est fatal. La législation peut même quelquefois les aider en finançant leur presse. Ça a existé et ça existe. Pour soutenir la diversité du courant qui est un gage de la démocratie. Certains courants, avant le tournant du siècle, justement, ont été financés de cette manière. À l'époque du papier, les courants extrêmes ou marginaux avaient beaucoup de mal à diffuser leurs idées, faute de moyens. Ce sont des courants qui, en général, trouvent peu de mécènes, même si, évidemment, il y a des exceptions, et je crois que le cas du patriarche Le Pen est une exception. Aujourd'hui, le numérique permet une diffusion presque gratuite, enfin en tout cas une diffusion très très bon marché, ce qui a certainement, mais vous me direz ce que vous en pensez, contribué au développement de courants dits populistes depuis le tournant du siècle. Je crois que ça a été un facteur important. La nouveauté aujourd'hui, c'est que ces courants sont très puissants. Aujourd'hui, on peut considérer que ce sont à peu près 40% des Français, soit du côté de Le Pen, soit du côté de Mélenchon, à peu près, qui ne se sentent représentés ou pris en compte ni par les gouvernants, ni par les médias. C'est pourquoi la question qui nous occupe aujourd'hui atteint des proportions inégalées. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. La lutte entre les médias élites et les courants populistes est autant une lutte de classe qu'un combat idéologique. Et c'est précisément cela qui rend ce combat sinistre. Parce qu'une lutte de classe, c'est toujours sinistre. Chacun des deux représente à la fois un courant de pensée et un groupe social. Les médias représentent davantage une élite cultivée. Il ne faut pas être analphabète pour écrire un article. Une élite urbanisée, cosmopolite, défendant une vision du monde universaliste et libérale, sans frontières, sans limites, émancipatrice et individualiste. Les choses sont trop simples, mais en gros, C'est quand même plutôt de ce côté-là. Autrement dit, une pensée progressiste ou postmoderne, défendue par la presque totalité de l'élite. En tout cas de l'élite des pays occidentaux. Ici, l'élite défend sa manière de vivre autant que sa conception de l'existence, voire son idéologie, même si le mot est trop fort ici. Les courants populistes, eux, représentent une volonté de défendre l'enracinement dans des particularités, c'est-à-dire des territoires, des patries, petites ou grandes, et de limiter l'extension du libéralisme tous azimuts. D'où le vocable « démocratie illibérale ». Donc une forme de réaction face au progressisme, je dis bien une forme de réaction, portée par des couches sociales plutôt populaires. Pourquoi peut-on trouver l'enracinement davantage dans les particularités contre l'idéologie universaliste portée par les couches populaires? Pourquoi? C'est là ce que la gauche, pendant longtemps liée au peuple, considère comme une énigme. Et pourtant, je ne pense pas que ce soit une énigme. Je pense qu'il n'y a rien là que de compréhensible. Lorsque l'électorat populaire, j'entends ouvriers et paysans, votait socialiste, je crois que c'était moins pour l'universalisme socialiste, ou les lendemains qui chantent, si vous voulez, que pour l'énergie des socialistes à défendre les intérêts et les droits de cet électorat. C'est d'ailleurs en raison de cette distorsion que Lénine a été obligé, dès 1917, d'établir une dictature qui n'était plus la dictature du prolétariat, mais une dictature sur le prolétariat. Parce que le prolétariat en question, dès qu'il a été, disons, interrogé, s'est mis à réclamer non pas les lendemains qui chantent aux grandes dames de Lénine, mais, ou qui chantent pour demain, mais des syndicats tout de suite. Et ça, c'est évidemment une défense de ce qu'on peut appeler le particulier par rapport à l'universel. L'électorat populaire ne défend pas l'universel. Sa culture propre l'empêche d'être cosmopolite. Il est terre à terre et il défend le bon sens. Les grandes idéologies lui paraissent arrogantes et superfétatoires. Aujourd'hui, c'est parce que l'électorat populaire considère l'universalisme postmoderne comme une idéologie abstraite et donc fallacieuse qu'il s'enrôle dans les courants populistes. Pour les élites, si vous voulez, il y a quelque chose d'irrationnel chez le peuple des populistes, évidemment, et ce dernier juge à son tour qu'il y a quelque chose de déraisonnable chez l'élite. Les premiers tiennent pour la raison, c'est-à-dire la technocratie, l'organisation, et les seconds tiennent pour le bon sens, c'est-à-dire l'instinct, l'émotion. Autrement dit, ils ont du mal à se rencontrer. Les deux camps, je me sens entre guillemets, heureusement, ce n'est pas la bataille encore, hein, si on peut s'exprimer ainsi, traduisent les sentiments et les humeurs, en même temps que les concepts, que l'on peut attribuer, même évidemment si c'est trop simple encore, aux progressistes d'une part et aux conservateurs de l'autre. Les médias qui recrutent chez les élites défendent des libertés et une émancipation de plus en plus vastes. Ils sont sûrs de leurs droits et ils sont confortés dans leur légitimité par l'histoire tout entière. Ils décrivent les populistes comme un ramassis de sots et de brutes. Je rappelle que si je prends la littérature chansonnière de nos contrées, par exemple les textes des Deschiens, des choses comme ça, je vous rappelle que le citoyen qui vote Le Pen est un chasseur homophobe, machiste, qui gifle ses enfants et qui va en vacances au Puy du Fou. Donc voilà l'image générale. Le populisme qui recrute dans les classes les plus modestes a pour ciment la colère et l'amertume des choses perdues. Ça, c'est dans les livres sur les États-Unis, c'est tout à fait intéressant de voir l'amertume des choses perdues. Avant, on pouvait tout se permettre, par exemple, de chasser les petits oiseaux et de faire du feu dans son jardin. C'est ça, finalement, les choses perdues. Et décrit les élites, dont évidemment l'élite médiatique, comme des gens décadents, prétentieux et snobs. Le représentant de l'élite, typique, est décrit comme un donneur de leçons, sans contact avec la réalité, qui va par exemple prôner une forte immigration tout en vivant dans un quartier chic et protégé. Voilà l'image. Alors, évidemment, nous nous rendons bien compte que, et beaucoup de gens l'ont étudié, la gauche a perdu le peuple, je parle de la France, c'est une évidence depuis le tournant du siècle, Le peuple vote à droite, désormais, plutôt à l'extrême droite, ce qui traduit le niveau clivage en une séparation non seulement politique, mais sociale. Une lutte des classes s'est installée au cœur même de la lutte politique. C'est ainsi que Thomas Frank, déjà cité, peut appeler ses deux livres, le premier « Pourquoi les pauvres votent à droite » et le deuxième « Pourquoi les riches votent à gauche ». Ces deux titres sont à la fois impressionnants et, j'allais dire, et plutôt tristes. Le ton du débat en est entièrement transformé. Face à un adversaire idéologique, dans un pays civilisé en tout cas, on peut se tenir, on peut argumenter. Mais de la lutte des classes, il sourd aussitôt le ressentiment et le mépris. Ce n'est pas que l'autre pense différemment de moi, c'est d'abord que l'autre n'en est pas au même niveau de langage. Évidemment, il faut apporter un bémol. J'ai parlé des pauvres qui votent à droite. Il y a un populisme de gauche, représenté en France par Jean-Luc Mélenchon, si tant est qu'on veuille l'appeler populisme. Populisme, parce que bon, c'est encore discutable. Et d'où dans quelques pays, comme la Grèce ou l'Espagne, même si ça reste encore discutable, il faut souligner cependant qu'il s'agit toujours, quoique de gauche, d'une forme de conservatisme. Ce sont des courants qui veulent, selon l'élite d'une façon déraisonnable, mais qui veulent conserver des avantages sociaux que la mondialisation avait dissipés. Ces courants, d'ailleurs, rejoignent les courants populistes de droite ou d'extrême droite par leur critique du libéralisme excessif. Ils se rejoignent là. Et d'ailleurs, parfois, ils passent des alliances, comme c'est le cas en Italie aujourd'hui. Et ils traduisent bien le fait qu'aujourd'hui, le conservatisme se déploie non seulement dans une partie de la droite traditionnelle, c'est une évidence, mais chez une gauche déçue par ce qu'elle considère comme un faux progrès, je mets progrès entre guillemets, les écologistes, l'extrême gauche. Bon, évidemment, tout ça est assez flottant. Si les médias se situent généralement en opposition au courant populiste, ce n'est pas parce que les médias seraient généralement progressistes, entre guillemets, mais d'abord parce que les médias ne peuvent être tenus que par une élite culturelle. Autrement dit, il y a là un combat de classe. La conséquence est que la classe politico-médiatique, il faut bien parler de classe puisqu'il y a une affaire d'éducation là-dedans, se voit débordée par le nombre. Elle est archi-minoritaire en termes stricts de démocratie. Cependant, en termes de détentrice de la parole et du pouvoir, c'est elle qui est censée représenter la population. D'où une situation préoccupante, et j'en viens à la question de la représentation. Un fait difficile à accepter. Les médias sont très peu représentatifs de la population française, je parle de la France. Les médias devraient en principe représenter peu ou prou l'ensemble des courants du pays, afin que tous puissent se reconnaître dans certaines expressions médiatiques correspondant à leur sensibilité. C'est au moins comme ça qu'une démocratie devrait fonctionner. Depuis des décennies, un tas d'enquêtes ont été faites, laissant voir déjà d'abord une surreprésentation de la gauche chez les journalistes. Je pense que tout le monde le sait. Sans doute, cette surreprésentation s'est-elle, à mon avis, vous me le direz, atténuée depuis une dizaine d'années, si l'on en juge par le nombre et par le succès de certains médias de droite, ce qui est une chose, me semble-t-il, assez nouvelle. Il est probable que la condition même de journaliste suscite la modération, je le crois, comme toute situation de responsabilité. Les pensées extrêmes, qui sont d'un seul tenant, correspondent généralement peu à la réalité du monde social. Le monde social est complexe, il est nuancé. Mais surtout, et c'est le cas quand on parle du populisme, aujourd'hui, les pensées extrêmes sont réactionnaires, je mets entre guillemets encore, il y a beaucoup de guillemets, contraires donc à la marge de l'histoire. Et à ce titre, elles sont peu crédibles. Je vous rappelle quand même que l'ange de l'histoire de Paul Klee, celui que décrivait Moses, est poussé par un vent violent. Vous avez cette image dans la tête, qui ne décoiffe pas seulement. C'est un vent qui décoiffe, évidemment, mais c'est surtout un vent qui interdit, un vent qui empêche d'avancer dans un certain sens. Faut toujours se souvenir quand même que la roue de l'histoire est crantée. On peut s'en réjouir ou pas, mais enfin, je pense que c'est quand même une évidence. Et donc, ces pensées réactionnaires, entre guillemets, sont difficiles à défendre parce que le caractère irrésistible du progrès les fait apparaître comme littéralement irréalisables, quelle que soit leur obédience. Cet été, j'ai rencontré par hasard, et dans deux endroits différents, deux partisans de ce qu'on appelle aujourd'hui la remigration. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. C'est un projet qui est défendu dans les milieux d'extrême droite et qui consisterait à chasser de notre territoire les immigrés récents et anciens, même s'ils possèdent une carte d'identité française. Alors, en dehors même, évidemment, de l'argument moral qui fait apparaître complètement ahurissant, ce que ce projet comporte d'invraisemblable saute aussitôt au regard. Vous voyez. Même dans le désir d'écouter tout le monde, ce qui est mon cas, et de tenter de comprendre les opinions les plus diverses, ce qui est mon cas, on ne peut pas voir dans cette affirmation une opinion normale. Enfin, c'est mon avis. La chose paraît tellement ahurissante, tellement loin de notre histoire. Ses partisans la comparent à l'expulsion des pieds noirs d'Algérie. C'est une comparaison impensable, enfin, vous voyez, que je ne peux pas m'empêcher, à ce moment-là, de me demander quelle est la case qui manque à mon interlocuteur, vous voyez. Ceci pour vous montrer à quel point quand même il y a un problème de compréhension. Les analystes ont pu d'ailleurs constater que lorsqu'un candidat annonce une mesure extrême et parvient au pouvoir, généralement et dans la plupart des cas, il ne parvient pas à la mettre en œuvre. Imaginons un pouvoir qui promette, je ne sais pas, de supprimer le mariage entre deux personnes du même sexe, il ne parviendrait pas à mettre ça au pouvoir. Même s'il avait les 51% des électeurs, en imaginant même cela, bon, il ne parviendrait pas à ce genre de mesure. Bon, je pense que le fait de dire que l'histoire est une roue crantée, c'est quand même assez juste. Un leader populiste peut prononcer un discours extrême, bon, évidemment, on en a tous vu, dans un préau, devant ses électeurs, mais un journaliste qui se sent responsable devant un public, il est probable que cela le modère, quels que puissent être par ailleurs ses goûts pour la démesure. C'est pourquoi il est bien rare que les extrêmes soient représentés dans les médias. Même si Internet et les réseaux sociaux permettent aujourd'hui bien des changements. Le fait est, et ça explique la distance entre les médias et les populismes, que le discours extrémiste est difficile à divulguer. Non pas seulement en raison du politiquement correct, qui le frappe d'immoralité, mais aussi parce qu'un discours extrémiste manque de réalité. Je pense que, j'ai pris l'exemple de la remigration, c'est quelque chose qui est frappé d'immoralité, et à juste titre, à mon avis, mais qui en même temps manque de réalité. Oui. Je pense que c'est important, cela. Pour l'ensemble des médias, et pour les raisons que j'ai évoquées plus haut, les courants dits populistes ne sont pas considérés comme des alternatives crédibles dans le combat politique instruit par les démocraties, pour toutes ces raisons que j'ai dites tout à l'heure. Aussi, les voir arriver au pouvoir équivaudrait à une sorte de fin du monde. Ce qui apparaît, et c'est une conséquence assez inquiétante, ce qui apparaît dans les discours médiatiques devant, par exemple, la prise de pouvoir de Haider, il y a déjà un certain temps, jusqu'à celle de Trump. C'est impensable. C'est une sorte de fin du monde, l'arrivée de Trump au pouvoir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il représente une sorte de recul historique, une sorte d'injure au progrès. Et il n'y a plus là un débat courtois entre des visions du monde, comme ça doit toujours être le cas en démocratie, mais il y a une guerre larvée contre une vision du monde inadmissible, qu'il faut tout faire pour empêcher d'advenir au pouvoir. Parce qu'on ne possède pas les arguments suffisants pour l'interdire, parce que finalement on ne sait pas comment attraper cette affaire, il faut la combattre. Nous ne sommes donc plus dans une configuration de débat démocratique entre courants politiques, comme c'était le cas par exemple entre le libéralisme et le socialisme. La classe gouvernante, que le Front National appelle par exemple nomenclatura, par dérision, la classe gouvernante qui comprend l'ensemble de ceux qui gouvernent, pensent, écrivent, donc aussi les médias, considère que les partis dits populistes représentent non pas des courants politiques avec lesquels on doit débattre comme c'est la loi en démocratie, mais des dangers pour la démocratie qui doivent donc être éradiqués. Autrement dit, nous ne sommes plus en situation de démocratie, mais nous sommes déjà, d'une certaine manière, en situation de guerre, entre guillemets. Georges Mossé, que j'ai cité tout à l'heure, dans son livre sur la brutalisation, décrivait ainsi la brutalisation des sociétés occidentales d'entre-deux-guerres, je cite, « On avait tendance à voir la politique comme une bataille qui ne cesserait qu'avec la reddition inconditionnelle de l'ennemi. » C'est un peu ainsi que ça se passe aujourd'hui. Les courants populistes ne sont pas considérés comme des adversaires, mais comme des ennemis. Commentant l'élection suédoise du 9 septembre dernier, c'était juste dimanche dernier, et j'ai constaté cet exemple significatif que j'ai aussitôt mis dans mon topo, les médias disent tranquillement tout le long de la soirée, en parlant du parti populiste, entre guillemets, on a réussi à limiter les dégâts. Autrement dit, on décrit de façon objective et significativement ce parti comme un dégât. Ce qui est incroyable, hein, parce que ça signifie qu'au fond, ce parti n'est pas un adversaire loyal avec lequel on discute, mais un ennemi. Et il y a peu de jours, pas plus tard que 8 jours, je crois, le président Macron a parlé de lèpre populiste. Quand on commence à donner à ses adversaires des noms d'animaux, les insectes nuisibles de la Russie, etc., ou des noms de maladies, la lèpre, c'est qu'il s'agit bien d'ennemis, pour lesquels, loin d'utiliser la tolérance et la courtoisie dans des régimes démocratiques, on ne fera pas de quartier. Et d'ailleurs, on ne fait pas de quartier. Alors, je terminerai en disant ceci. Je pense que la plupart des médias ont tenté d'empêcher la montée des populismes par des attaques verbales, puisqu'on ne peut les empêcher de recevoir les suffrages des électeurs. À ce titre, ont été tentés depuis des années un ostracisme verbal et une stratégie de l'humiliation, bien et tout à fait évidente à mon sens. Mais cela n'a pas porté ses fruits. Les électeurs du populisme se sont au contraire multipliés et ils ont grandi, malheureusement, dans la détestation des médias. Et nous en sommes là. Ce phénomène, d'ailleurs, n'est pas seulement français, on le constate par exemple aux USA et ailleurs. Je pense que cette situation est dangereuse pour la démocratie, d'un côté comme de l'autre. Les médias se considèrent en état de guerre larvée, ce qui est tout à fait antidémocratique, ce que je viens de dire à l'instant. Et en face, l'électeur des populismes n'a plus aucune confiance dans ce que les médias lui rapportent. Mais alors, plus aucune confiance. On peut dire que cette transformation de la politique en guerre et d'un adversaire en ennemi efface la confiance dans le régime. D'après une enquête sur les fractures françaises rapportée dans Le Monde de juillet, j'ai toutes les références ici pour ceux qui veulent, près de la moitié des jeunes Français, près de la moitié, 47% je crois, pensent que d'autres systèmes politiques sont aussi bons que la démocratie, ce qui est très angoissant, je le trouve. L'existence même des populismes traduit la montée d'une polarisation idéologique forte, en plus d'une guerre de classe. Les élites ont le sentiment que les peuples veulent les faire régresser. Autrement dit, le débat se situe à un niveau très profond, au niveau du processus de civilisation, ce qui permet peut-être de comprendre pourquoi le combat est si violent. Je crois pour ma part que nous sommes en face d'un énième épisode de ce que Neumann Unold appelait la guerre civile européenne, c'est-à-dire qui oppose depuis 2 siècles les modernes et les antimodernes. Mais ceci, c'est une autre histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté.